présidentielle pour un nouveau mandat de 6 ans.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Rendez-vous pour des enregistrements du Jeu des 1000 euros dans les Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui à Josiers, à 18h30, et demain à Castellane, 18h30 également. À très bientôt dans les Alpes de Haute-Provence.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Les gens qui font l'accueil, ils travaillent debout dans le hall de l'entrée de Pôle emploi. Les chômeurs, eh ben, on fait la queue debout aussi, en général sur deux lignes. Donc lui est debout derrière son ordinateur, nous on est debout de l'autre côté, on fait la queue, il y a des grandes files qui font plusieurs mètres de long. Et puis quand c'est ton tour, eh ben, tous les gens derrière, ils entendent ce qu'on dit. Et on ne peut pas s'empêcher d'entendre ce que disent les gens dont on s'occupe. Et parfois il s'agit de régler des cas très très compliqués, comme il dit, mais c'est même pas dans un bureau, c'est même pas assis, il est debout tout le temps, et nous on est debout. Et après, éventuellement, on vous donne un rendez-vous. Ils ont raison de faire grève et il faut surtout pas se monter les uns contre les autres. C'est comme à la poste, c'est comme dans tous les services publics. On attend, on fait la queue, on est super énervé après les gens en face, mais c'est pas eux les responsables, il faut jamais l'oublier.
Deux petites informations. Tout d'abord, le 11 novembre, un rassemblement pacifiste au monument aux morts de Primelin. C'est dans le Cap-Sizun. Rassemblement qui aura lieu à 11h45. À ce monument aux morts, qui est un des rares monuments aux morts pacifistes en France. Pour le week-end suivant, dimanche 14 à 18h30, 14 novembre, le café repère mensuel du café repère de Douarnenez, qui aura pour thème « Quel regard sur le handicap en France aujourd'hui ?» Donc 14 novembre 18h30 au Chamouette, 39 quai de l'Isère à Triboul.
Ça fait trois matins de suite à 9h à Port-d'Anières. En fait à Port-d'Anières, il y avait la semaine dernière encore à peu près 8 SDF qui sont là toute la journée quoi. Et donc ils se font harceler par la police là tous les matins. Et la police ils viennent avec les bennes de la mairie de Paris, avec les jets d'eau et tout. Des mecs qui ont les combinaisons en blanc, là, comme si c'était les experts. Ils nettoient tout, ils virent toutes les tentes et tout. Tous les matins, ils leur pourrissent la vie, quoi. Et donc, franchement, moi, je trouve ça ouf, quand même.
Bonjour à tous les amis et futurs amis du Nouveau Repère, situé dans les Côtes d'Armor, à Plouer-sur-Rance. Nous nous réunissons chaque deuxième jeudi du mois. Et pour notre second repère, nous débattrons sur les médias, leur relation avec leur pouvoir, leurs possibilités et leurs limites à être des contre-pouvoirs. Alors, rendez-vous jeudi 11 novembre à 20h au Café de Pays La Dame de Nage à Plouer-sur-Rance, à côté de Dinan.
Eh bien voilà, c'est fait. Cette nuit, le petit Nicolas a promulgué la loi sur les retraites. Hier, le Conseil constitutionnel avait validé cette grande réforme. Un conseil indépendant et impartial, comme chacun sait. Quelle rapidité ! Guerre éclair contre l'archaïsme syndical. Et maintenant, merci de votre pédagogie, les journalistes, on nous annonce que Nicolas dispose d'une fenêtre de tir pour le remaniement, l'affaire qui passionne les Français. Et pour fêter cette grande victoire du courage politique, France Inter invite ce matin Gérard Collomb, le maire de Lyon, un socialiste comme on les aime, à droite de DSK, à droite de Manuel Valls. Tout va bien, tout baigne.
Oui, bonjour, voilà, je me demandais juste qui était le plus pathétique, si c'était Sarkozy qui se posait en héritier de De Gaulle ou bien Aubry qui faisait l'apologie de De Gaulle pour essayer de critiquer Sarkozy, la gauche française. Vive Mélenchon et à bientôt, salut.
On a tous en nous quelque chose de Charles de Gaulle, très importants échos qui me parviennent ici, au fin fond de la République démocratique du Congo, à Goma, au bord du lac Kivu. On a tous en nous quelque chose de Charles de Gaulle, c'est évident. J'espère, étant loin de la mère patrie, qu'on n'a pas manqué ces jours-ci de célébrer la une la plus célèbre de l'histoire de la presse, balle tragique à Colombey. Balle tragique à Colombey, c'était un grand moment de la presse. C'était Harakiri, bien sûr, devenu Charlie Hebdo, et Charlie Hebdo étant devenu ce que l'on sait. Mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que l'histoire de cette couverture est magnifique, et je suis sûr qu'on est en train de l'évoquer et de la célébrer dans le pays. Nous sommes à la veille du 11 novembre, et on a eu l'idée de célébrer le 11 novembre d'une façon particulière, en célébrant Jean Jaurès. On a tous en nous quelque chose de Jean Jaurès. Pourquoi célébrer Jean Jaurès à la veille du 11 novembre? C'est parce que c'est cette guerre qui lui a valu d'être assassiné le 30 juillet 1914 par un nationaliste, lui, Jean Jaurès, qui était opposé à cette guerre. Non pas seulement pour des raisons pacifistes, mais pour bien d'autres raisons de nature essentiellement politique. Voilà, c'est notre émission du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37. Je peux vous annoncer quelque chose, c'est qu'il commence à pleuvoir sur le lac Kivu.
Bonjour, je voudrais pousser un coup de gueule par rapport à la pauvreté en France. On parle beaucoup des gens qui n'ont pas de boulot, des gens qui sont salariés et qui n'ont pas assez d'argent pour vivre, et on a tendance à oublier les chefs d'entreprise. Je suis ce que l'on peut qualifier de chef d'entreprise. J'ai une micro-entreprise et l'année dernière, j'ai engrangé la magnifique somme nette de 9 266 euros pour l'année. Eh bien, l'État m'en a pris 5 941. C'était les charges de l'URSSAF. Conclusion, eh bien, il m'a resté 772 euros par mois pour vivre, en gros. En gros, on va dire. Voilà. Moi, je vais bientôt déposer le bilan. Et ma conclusion, c'est que pendant 3 ans, j'ai bossé comme une folle, très peu cotisé pour ma vieillesse, à mon avis perdu 3 ans, été éventré financièrement et j'ai aussi une grosse désillusion. Je crois que je vais retourner dans le salariat. C'est quand même plus sage.
Le prochain repère de Saint-Bernard-du-Touvet aura lieu le vendredi 12 novembre à 18h30 au Sabot des Muses. On parlera de la santé. Venez nombreux, on vous attend.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, je vais commencer par un petit texte court en proposant aux auditeurs modestes et géniaux que vous êtes de deviner l'auteur de ces lignes que voici. La question des retraites ouvrières et paysannes a fait hier un pas décisif. Le gouvernement a pleinement adhéré au projet de la commission qui, telle qu'elle, réalise pour le prolétariat un progrès immense. Ce projet l'emporte par 2 traits essentiels. D'abord, il fixe à 60 ans et non pas à 65 l'âge auquel, dans le régime normal, commencera la retraite. Et si, dans la période transitoire, il ne fait commencer la retraite qu'à 65 ans, c'est pour l'abaisser rapidement par des séries de paliers à 64, 63, 62, 61, enfin 60. Voilà quelques lignes. Alors les plus malins, les plus cultivés, les plus chanceux ont retrouvé la plume et le ton, l'intonation de Jean Jaurès. C'est un texte qui s'intitule « Les retraites ouvrières » et c'était dans un journal qui s'appelle « L'Humanité » le 13 juillet 1904. Les retraites qui allaient dans le sens inverse du sens où elles vont aujourd'hui en 1904. C'est un texte qu'on trouve parmi d'autres dans un livre que vous signez, Charles Sylvestre, Jaurès, la passion du journaliste. Journaliste que vous êtes, Charles ?
Oui.
Toujours. Oui. Journaliste, ancien rédacteur en chef de l'Humanité.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, secrétaire national des Amis de l'Humanité et passionné de Jaurès. le créateur du journal, et je reste le journaliste. Alors, d'abord, pourquoi s'intéresser à seulement cet aspect du bonhomme ?
Parce que Jaurès était jusqu'à présent très connu comme le tribun socialiste, l'apôtre de la paix, le député de Carmaux. C'était ses grands titres de gloire. Abelard Berriot disait que Jaurès était surtout en France une statue, avec des bustes, des noms d'avenues, des noms de rues, des noms de places, etc. Donc c'était la gloire de Jaurès devant laquelle tout le monde peut se prosterner. Par exemple, Sarkozy s'est connu maintenant.
On va en parler, bien sûr.
Voilà. Mais donc, en revanche, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un jour découvert qu'il y avait un Jaurès, lui, qu'on pouvait regarder sur toute la durée de son travail, sur 27 ans. C'est le Jaurès journaliste qui commence en janvier 1887 et qu'il finit évidemment le jour de son assassinat, le 31 juillet 1914. Et ce qui est extraordinaire dans ce parcours, c'est que moi, je le connaissais bien pour les 10 dernières années à l'Humanité, de 1904, 18 avril, au 31 juillet 14, que je connaissais beaucoup moins bien, même si j'en avais un petit peu entendu parler, c'était le Jaurès de la Dépêche. Or, Jaurès dans la Dépêche, les éditions Privas ont publié un volume extraordinaire qui s'appelle Jaurès l'intégrale dans la Dépêche, où j'ai découvert qu'il a signé dans la Dépêche 1312 articles en 27 ans. Et c'était un article par semaine. Et ce qui est formidable dans ce parcours, dans la Dépêche, dont je dis que le couronnement sera dans l'Humanité, parce qu'en fait, l'Humanité, quelque part, est aussi le produit de ce travail de journaliste dans la Dépêche. Mmh. Il l'accomplira, en fait, dans l'Humanité, mais il continuera dans les deux, d'ailleurs. Et alors, ce qui est extraordinaire en lisant ces articles de la Dépêche, c'est l'évolution de Jaurès. Bon, parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un Jaurès à telle date, en 1887, puis un Jaurès en 1892, puis un Jaurès en 1904, puis en 1912. Non, je pense que ce qui est passionnant à regarder chez Jaurès, c'est le parcours sur 27 ans.
Les valeurs que la gauche a trahies.
12 avril 2007.
Eh bien, moi, je veux les remettre.
Nicolas Sarkozy.
Au cœur de la vie politique française.
Discours de Toulouse.
La gauche a trahi les valeurs dans lesquelles vous croyez. Jaurès disait, la nation, c'est le seul bien des pauvres. La gauche a abandonné la nation à l'extrême droite. Alors oui, je ne suis pas socialiste. Mais ce qu'a fait la gauche de jadis, la gauche qui croyait au travail, qui croyait à l'éducation, qui croyait au mérite, qui croyait à la liberté de conscience, qui croyait à la morale, qui croyait en l'individu, eh bien moi je veux le faire à mon tour.
Quand on parle de Jaurès à chaque fois, on vient tout de suite de, et vous n'avez pas manqué de le faire, d'évoquer le fameux discours de Nicolas Sarkozy au cours duquel il a cité 27 fois Jaurès, on va en parler.
Oui, oui.
Mais on peut avoir le Front National qui cite Jaurès, on peut avoir le centre-gauche qui cite Jaurès et qui s'en réclame, on peut avoir un portrait magnifique de Jaurès dans le bureau, par exemple, de Dominique Strauss-Kahn, on peut avoir un Jaurès, je suis sûr, à l'extrême gauche, et puis, bon, vous étiez directeur de l'Humanité, dans les locaux de votre journal, je suis sûr qu'il y a un portrait de Jaurès. Donc, qu'est-ce que c'est que ce personnage qui sert de référence à tout ce monde-là? Comment en est-il arrivé là? Est-ce que ça veut dire, comme vous le dites, que ben il suffit de se d'abord ou bien de tricher pour certains,
oui, bien sûr,
qui
ouais.
manquent pas de couper tout ça en morceaux et de tronçonner ce qui les intéresse dedans? Mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme en marche avec la puissance intellectuelle et physique, enfin, dans cette activité de journaliste et la preuve? Comment expliquer cette universalité ou ce Jaurès multiple ?
Ben, elle s'explique très bien parce que Jaurès, il y a quelque chose, et je dis quelque part qu'à un moment donné, c'est pratiquement un saint laïque, Jaurès. Bon. Et les valeurs morales de Jaurès, moi je reconnais à quiconque en France de se recommander des valeurs morales de Jaurès. Par exemple, est-ce que tout le monde peut se dire républicain ? Oui. Est-ce que tout le monde peut se dire pacifiste ? Oui. Est-ce que tout le monde peut être, disons, pour un certain progrès social? Oui, ça, bien sûr. Et donc, Nicolas Sarkozy, je pense, c'est Henri Guénaud qui lui a conseillé, a cité donc Jaurès 22 fois dans son discours de Toulouse en campagne électorale.
C'est 27, hein, moi j'ai le nombre, 27 fois.
Ah bon, alors correction, je corrigerai. 27, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des inexactitudes. Lui qui était un grand défenseur de l'exactitude. Non, mais par exemple, Ségolène Royal, a fait son annonce de candidature en 2007, et derrière elle, il y avait un grand portrait de Jaurès. Il y a des gens qui, en 2005, au moment de l'affaire du référendum sur le projet de constitution européenne, se sont recommandés de Jaurès. Pourquoi ? Parce qu'il a été très européen, Jaurès aussi, comme Victor Hugo, d'ailleurs. Après, la question à se poser, c'est mais de quelle Europe parlait-il exactement ? Donc, il y a des références d'histoire comme ça, où les gens peuvent se servir. Mais Robert Hue ironisait beaucoup aussi sur ce que j'appelle, moi, les citateurs de Jaurès. Mmh. Vous prenez une phrase de Jaurès, tout le monde peut se servir là-dedans. Le Front National, bien sûr, Jaurès est patriote. Il est patriote, il est bon, il aime la France, Jaurès. Bon, et donc on peut très bien dire, voilà quelqu'un qui était plus français que tout français, tout. Mais là où il y a tricherie, c'est que il y a la phrase célèbre de Jaurès, hein, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l'internationalisme, beaucoup de patriotisme. Il ramène. Bon, mmh. Ça, on voit bien que là, on ne peut pas tricher sur le patriotisme avec Jaurès. La preuve, d'ailleurs, il a été victime. Hein. Mmh. C'est comme traître vendu à l'Allemagne qu'il a été assassiné, quand même, mmh. Jaurès. Mmh. Donc, on voit bien que cette utilisation de Jaurès, on comprend pourquoi il peut être utilisé, mais si on est honnête, surtout en étudiant Jaurès pour ce qu'il a été réellement, et surtout pour l'évolution de ses convictions, de ses idées, là, on ne peut pas tricher avec ça.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes, ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse, laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès.
Finalement, c'est une grande figure donc du socialisme, mais on connaît assez peu, on connaît mieux l'avenue Jean Jaurès ou le métro Jean Jaurès que Jaurès.
Non, mais c'est aussi, bon, il y a la chanson de Jacques Brel.
Hein, oui, pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès, qui est très belle, bon, oui, oui. Mais qui est, disons, aussi un peu sentimentale, quoi. Hein, c'est la sensibilité de Brel qui vibre avec Jaurès. Bon, mais par exemple, il y a des choses, quand on étudie vraiment, là, le Jaurès journaliste, qui est extraordinaire, c'est comment il a changé d'optique. Jaurès, par exemple, n'est pas Dreyfusard. Quand le capitaine Dreyfus est envoyé au bagne, oui, sur l'île du Diable, bon, il y a une bataille de 4 ans, qui va durer même plus longtemps que ça. Jaurès n'est pas Dreyfusard. Pourquoi ? Parce que Jaurès, c'est un républicain au départ. Mmh. Donc Jaurès ne peut pas croire que l'armée, la justice, l'État sont en train de commettre une infamie avec un capitaine de l'armée française qui se trouve être juif. Bon, et pourquoi on pourfend Jaurès ? Bien sûr, on le sait maintenant. C'était parce que le juif qui, disons, livrait des secrets de la défense à l'Allemagne, s'était tout trouvé, disons, à l'avance, un petit peu pour préparer les esprits à ce chauvinisme. Mmh. Voilà. Bon, et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Jaurès, là, alors moi, ça, c'est une chose pour moi extrêmement importante, c'est que Jaurès, même s'il a des convictions, à un moment donné, au départ, il est prêt à en changer en travaillant. En travaillant, c'est-à-dire, eh bien, il se livre à un travail d'enquête. Mmh. Il y a un volume de Jaurès qui s'appelle L'Épreuve, c'est une collection d'articles de lui. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a enquêté. Il a soulevé des contradictions entre Esterhazy et Henri, qui étaient les deux officiers supérieurs qui s'occupaient de ça, qui avaient monté le coup. Bon, et il arrive à percer peu à peu la vérité, mais progressivement, sans affirmation. Il enquête, c'est un contre-enquêteur, Jaurès, pratiquement.
Et il deviendra Dreyfusard.
Formidable Dreyfusard.
Vous avez, Charles, rapidement évoqué la question juive à cette époque-là. Et on sait qu'il y a eu, et ça c'est une chose dont il faut savoir parler et regarder avec la même lucidité qu'un Jaurès pouvait le faire, il y a eu ce qu'on a appelé le socialisme des imbéciles, ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu dans ces époques un socialisme, sensibilité qui est toujours la vôtre, qui fut antisémite.
Oui, oui, tout à fait. Oui,
et on a des lignes de Jaurès, oui, qui relèvent de l'antisémitisme.
Oui, 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 on peut le dire, oui, oui, vraiment.
Il n'est pas le seul à son époque.
Non, non, il n'est pas le seul. Non, c'est parce qu'à l'époque, où ce qu'on peut appeler le socialisme des imbéciles, ou un anticapitalisme aveugle, il le dit, il y a beaucoup de juifs dans le commerce, il y a beaucoup de juifs dans la banque. D'accord. Bon, et à partir de là, il écrit une phrase qui pratiquement explique pourquoi on peut être antisémite, parce qu'on est contre le commerce, contre la banque. Il ne faut pas oublier qu'il y a le scandale de Panama. Il y a des scandales de l'époque. Donc les gens sont très énervés, très remontés contre disons, le commerce de l'argent, la spéculation. On peut penser à ce qui se passe aujourd'hui. Bon, mais enfin, on n'est pas dans la même époque. Bon, et donc Jaurès, mais en même temps, tout de suite, il le combat. Dans le même moment où il comprend ça, où il a des phrases équivoques sur la juiverie, en même temps, il le combat parce qu'il sait très bien où veulent en venir les antisémites. Et donc, lui, tout de suite, il corrige le tir et il a des phrases en disant « Est-ce que telle compagnie qui est dirigée par un juif, des chemins de fer hein, ?» Bon, mais il dit « Mais il y a une autre compagnie ou des gens du scandale de Panama qui ne sont pas juifs. » Donc, dit-il, le problème n'est pas qu'ils soient juifs. Le problème, c'est qu'ils sont capitalistes ou qu'ils sont banquiers. Donc, tout de suite, lui, il fait la séparation entre les deux.
En quelques mots, Charles, la biographie de Jaurès.
Alors, c'est un enfant né à Castres, bon, d'une mère qu'il aimait beaucoup. C'est une petite bourgeoisie, négociant, disons. C'est un élève très brillant. Et c'est lui qui va prononcer le discours devant le préfet quand il visite le lycée. Bon, ensuite, il aura un prix du concours général. C'est un élève très brillant. Donc, il prépare le concours à l'école normale supérieure, où il y aura toutes ces grosses têtes de la philosophie de l'époque. Bon, et il est reçu premier. Donc, c'est un étudiant. Et il va être donc nommé professeur de philosophie à Albi, où il va exercer dans le lycée qui aujourd'hui porte son nom. Ensuite, donc, il sera également professeur à Toulouse, où il sera aussi conseiller municipal. Mais entre-temps, en 1885, il est élu député du Tarn sur une liste républicaine. Mmh. Voilà. Donc, député, hein, proche de Ferry, voilà. Donc, ensuite, pour aller très vite, il se trouve que, tout en étant député, il continue à être journaliste. C'est ça qui est important chez Jaurès. Quand il est député, il continue à être journaliste. Et il écrit sur les mineurs. Il y a un article formidable, je dis que c'est l'acte de naissance de Jaurès journaliste, qui s'appelle « Délégué mineur ». Moi, récemment, ça m'a laissé songeur. Pourquoi ? À cause des mineurs du Chili. Les mineurs du Chili, l'héroïsme, le président de la République qui est là, tout ce tintouin et tout. Et lui, Jaurès, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va dans la mine, il parle avec les mineurs, avec les délégués syndicaux, avec l'ingénieur. Il se renseigne, il va à la commission et il fait cet article qui est, pour moi, un petit chef-d'œuvre d'analyse sociale, parce que Jaurès dit, à un moment donné, pour la sécurité des mineurs, il n'y a rien de mieux que de confier aux mineurs, par le biais de l'élection du délégué, leur propre sécurité. Donc, une espèce d'autogestion de leur sécurité. Ça, c'est extraordinaire, parce que c'est la base même de ce qu'on appellera le concept de démocratie sociale chez Jaurès. Les travailleurs ont à prendre leurs affaires en main. Il l'étendra après, d'ailleurs, puisqu'il est collectiviste, Jaurès. Il sera pour les coopératives. Donc, il va étendre ça à sa réflexion sociale sur l'ensemble, disons, du champ social.
À cette époque-là, les conditions matérielles
ORTF
et morales chez les ouvriers de Carmaux
31 juillet 1964
étaient tout à fait insuffisantes.
Marius Fieux.
Il n'était pas rare de voir dans des familles de 8-10 enfants logés dans 2 ou 3 pièces. À la mine, on prenait des enfants pour travailler à partir de l'âge de 13 ans. Mais le travail était partout très pénible à cette époque-là. Et il n'y avait pas, comme maintenant, de sécurité sociale, ni des assurances sur les accidents du travail. Par exemple, un blessé ne touchait rien du tout. Il prenait ce qu'on voulait bien lui donner. Jaurès croyait au bonheur de l'humanité. Au conflit qui opposait souvent les mineurs avec leurs employeurs, Jaurès était toujours de leur côté. Pendant les grèves, Carmaux était occupé par la troupe, soit l'infanterie et la cavalerie. Un soir même, il fut poursuivi et on le fit rentrer dans une maison pour le sauver. Jaurès a apporté à ses opprimés un immense espoir.
Mais toute cette époque est à cette effervescence-là. On va parler de mutuelle, on va parler de collectif. Le socialisme est une préoccupation centrale, une pensée centrale. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres courants de pensée. Il y a la pensée de Marx, il y a la pensée de Proudhon, beaucoup plus oubliée évidemment aujourd'hui. Est-ce que c'est là que Jaurès devient socialiste ?
Jaurès devient socialiste quand, étant républicain, il constate une chose extraordinaire, c'est qu'à Carmaux, le propriétaire de la mine est un marquis monarchiste, c'est le marquis de Solages. Mmh. Le marquis de Solages, à un moment donné, il licencie le délégué mineur qui a été élu maire de Carmaux. Voilà, il le licencie. Il y a une grève terrible dans la rue, il y a des charges de gendarmes. Deuxième événement, dans Carmaux même, la deuxième usine de Carmaux, c'est la verrerie de Carmaux. Or, dans la verrerie de Carmaux, l'autre patron, lui, s'appelle Jean Rességuier. Et Jean Rességuier, à un moment donné, il licencie les deux délégués syndicaux parce que le syndicat de la verrerie était encore plus puissant que celui des mineurs. Et il les licencie tous les deux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jean Rességuier n'est pas du tout monarchiste, lui. Mmh. Il est du même camp que Jaurès. Il est républicain. Mmh. Il était candidat républicain, à un moment donné. Donc, qu'est-ce que découvre Jaurès? De quoi prend-il conscience? C'est qu'à un moment donné, il y a une partie de la gauche de l'époque qui se conduit comme les monarchistes vis-à-vis des ouvriers. Mmh. Donc, à un moment donné, il dit, si la République se comporte comme la monarchie contre le peuple, je ne suis plus de cette République-là, je reste républicain. Mais, dit-il, la République, pour être République, doit être sociale. Ça, c'est un pas en avant considérable, et c'est à ce moment-là qu'il va être, à la demande des mineurs de Carmaux, élu député de Carmaux en janvier 1893. Et il adopte, d'ailleurs, le programme de Jules Guesde, alors qu'il est, jusqu'alors, il n'est pas... Il
socialiste, avait le socialisme, comme Jules
Guesde, oui. Mais ce n'est pas celui de Jules Guesde. Mais il adopte quand même ce programme-là, du Parti ouvrier français, parce que pour lui, l'important, ce n'est pas le programme, c'est de devenir le porte-parole à l'Assemblée nationale des mineurs de Carmaux, et plus largement, quoi, du monde ouvrier.
Alors, on évoque Jules Guesde, on évoque le socialisme français, mais je voudrais revenir sur Marx. Est-ce qu'il lit Marx? Quel est son rapport avec le marxisme?
Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a une phrase célèbre de Jaurès, c'est quand il rédige ce livre formidable qui s'appelle « L'histoire socialiste de la Révolution française », et il se caractérise lui-même en disant « Je suis matérialiste avec Marx, lyrique avec Michelet, héroïque avec Plutarque ». Ça, c'est sa conception du travail d'historien à Jaurès. Et quand on lit ce volume, ces volumes...
C'est énorme.
Énorme et tout. Et on découvre une chose, c'est que le premier volume énorme, c'est les cahiers de doléances. C'est-à-dire que Jaurès part pour raconter l'histoire de la Révolution, de la vie populaire, de la revendication populaire, des aspirations populaires. Donc Jaurès est matérialiste, il le dira souvent. Il est tout à fait acquis à la question de la plus-value qu'il y a chez Marx. C'est un concept très important. Mais en même temps, dans une polémique avec Bernard Lavergne, qui est un républicain, Lavergne dit à Jaurès « Vous devriez répudier le collectivisme ». Et Jaurès lui répond non, je ne répudierai pas le collectivisme, parce que je crois que le collectivisme, c'est l'avenir. Il lui dit, mais il ne faut pas toujours faire croire que le collectivisme se réduit à Marx. Bien sûr, il y a le collectivisme de Marx que je prends en compte, mais il y a un autre collectivisme, ça ne s'arrête pas à Marx. Et il fait référence à quoi, là? Il fait référence, disons, aux socialistes français. Il fait référence à Fourier, à Proudhon, etc. C'est-à-dire que Jaurès, bon... On pourrait spéculer avec ça, en disant que peut-être que Jaurès a eu le pressentiment de ce qui allait se passer au XXe siècle. Ce n'est pas un étatiste absolu, Jaurès. Mmh, mmh. C'est quelqu'un qui est pour un collectivisme, je dirais, de création sociale. Donc, il est pour les coopératives. Il accorde une très grande importance aux syndicats. Mmh. Bon, par exemple, à un moment donné, il y a les bases, les premières bases de la SNCF, enfin du chemin de fer, et les cheminots, disons, se sont donné une mutuelle de prévoyance, pas plus. Et Jaurès dit, ben voilà, ça c'est intéressant parce que c'est peut-être la voie de l'avenir. C'est peut-être comme ça qu'on va construire un service public. C'est-à-dire que les travailleurs vont apprendre la gestion de leur travail collectif, de l'entreprise. Donc ça c'est très intéressant. C'est toujours, chez Jaurès, fondé sur... C'est un expérimentateur, Jaurès. Mmh, mmh. C'est pas un théoricien, c'est pas un dogmatique. Et donc, il avance au fur et à mesure de ce qui avance un peu dans la société et de ce que lui-même, disons, encourage.
Une page de Jean Jaurès, lue par Pierre Renaudel.
1924.
Je n'aime pas beaucoup les épithètes par lesquelles chacun caractérise et restreint le socialisme. Il est possible que l'avènement du prolétariat s'accomplisse un jour par des voies extra-légales, mais cette possibilité vague et que le mouvement même de la démocratie resserre tous les jours ne suffirait pas à justifier le mot de révolution. C'est en un sens plus profond que le socialisme est et demeure révolutionnaire. C'est qu'il ne reconnaît pas le droit de la société existante. La société d'aujourd'hui fondée sur la séparation des classes, sur l'exploitation du travail salarié par le capital, est à nos yeux la négation du droit. Le droit fondamental des hommes, le droit à la vie, le droit au travail et aux produits du travail est violé par elle. Nous ne donnons pas au mot de révolution un sens factieux et violent. Nous mettons constamment le prolétariat en garde contre la rhétorique révolutionnaire qui tend à déprécier les moyens légaux dont il peut faire usage. Nous lui répétons sans cesse qu'il ne transformera la société que par une œuvre patiente d'organisation et d'éducation, par la conquête graduelle du pouvoir. Mais c'est aussi notre devoir de proclamer que l'ordre socialiste n'est pas une extension et un prolongement de l'ordre capitaliste, que le droit socialiste n'est pas un élargissement et une application plus étendue du droit capitaliste, qu'il est un droit nouveau et que devant ce droit nouveau, l'ancien droit de la propriété n'est plus que néant.
Dans un numéro de l'Humanité qui était consacré probablement sous votre houlette à Jaurès, il y a un petit encadré, une phrase de Jaurès sur la propriété. C'est le rapport de l'homme à la propriété qui détermine et commande ses rapports aux choses et aux hommes. La propriété, ça c'est vrai, on est chez Marx là, on est dans le vrai socialisme, on est dans la vraie question du socialisme.
Oui, mais ce que je vous disais tout à l'heure, on est chez Marx, mais on n'est pas que chez Marx.
Ouais,
parce
ouais.
que la question de la propriété en France, et même remonte à avant Marx. Mm-hmm. Bon, Marx évidemment apporte une marque très profonde sur cette question-là, mais chez Jaurès, c'est plus large que ça. Alors, moi je vais vous dire franchement, je pense que s'il y a aujourd'hui un problème dans la gauche française, tout compris, je pense que c'est il y a une absence de réflexion concrète sur la question de la propriété.
Absolument.
Quand on dit qu'il faut mettre fin au capitalisme vu ce qu'il est devenu, vu ce qu'il devient, ce capitalisme, sous les yeux de tout le monde et à l'échelle planétaire, il y a une question que tout le monde peut se poser de façon avec du bon sens, c'est oui, mais s'il n'y a plus le capitalisme, comment va être construite la société? Comment va-t-elle fonctionner? Donc on ne peut pas éviter de se poser la question de la propriété. Moi, je ne suis pas un jaurésien en me disant « allons chercher chez Jaurès des leçons pour 2011, 2012, etc. » Mais je pense que la question qu'a posée Jaurès il y a plus d'un siècle, c'est comment les hommes peuvent-ils s'organiser pour travailler ensemble, pour vivre ensemble? Elle est fondamentale. Et là, c'est clair, il faut poser la question de la propriété. Par exemple, je n'ai pas, moi, de programme comme ça, surtout pas moi, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait des entreprises, qu'est-ce qu'on fait du commerce, qu'est-ce qu'on fait de la vie économique, en ne se contentant pas de demander est-ce qu'elle soit un peu plus sociale, un peu plus ceci, un peu plus cela. Parce que pour l'instant, là, il y a quand même, on sent bien qu'on touche des limites.
Et c'est avec cette question-là qu'il reste irrécupérable. En tous les cas, ce n'est pas cette question-là, ce n'est pas cette citation qui était dans le discours, le fameux discours de Nicolas Sarkozy, au cours duquel il a cité, alors on ne sait plus si c'est 22 ou 27, il a cité cette phrase-là ?
Non. Non, mais par exemple, il y a les vertus. Alors là, on peut se régaler avec ça. Le comportement d'un jeune homme, d'un homme,
oui,
d'un
oui.
jeune, on peut, chez Jaurès, il y a un grand discours à la jeunesse à Albi, dont il était originaire et tout, dans lequel tout le monde peut puiser là-dedans. Mmh. C'est une véritable leçon de civisme, de morale. Mmh. Mais on le sait bien, le civisme et la morale, on peut s'en servir comme on veut. Mmh. Bon.
On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
On est avec Charles Sylvestre, Jaurès, la passion du journalisme. Et c'est un bien petit livre pour mettre un si grand bonhomme. Hein. Alors, Charles Sylvestre, vous avez été rédacteur en chef de l'Humanité. Il va falloir qu'on parle de l'Humanité. On a évoqué la Dépêche, où Jaurès a donné des quantités de papier, combien ? Dans à la Dépêche.
Dépêche 1312.
1312 papiers et la création de l'Humanité. Racontez-nous la création de l'Humanité.
Il crée, il fonde, pas tout seul évidemment, il y avait Blum, il y avait Lucien R, il y en avait d'autres, le 18 avril 1904. Bon, c'est un événement assez considérable parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de quotidienne de cette nature en France. Donc, comme je dis dans le livre, à un moment donné, c'est comme si on entendait Jaurès ce matin dans la revue de presse. Voilà. Mmh. Donc, c'est une nouveauté. Je crois que l'Humanité, ce numéro-là, se diffuse à 130 000 exemplaires. Bon, ça ne restera pas à 130 000 exemplaires. Bon, et la caractéristique de l'Humanité, je pense que c'est le point d'aboutissement de ce travail du journaliste et du politique. Quand je dis Jaurès... journaliste, bien entendu, il a été beaucoup parlementaire aussi. C'est un homme politique de premier plan. Donc, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Je pense que les deux s'articulent constamment. Alors, quand il crée l'Humanité, je dis que c'est un point d'aboutissement parce qu'on va y retrouver, disons, toutes les qualités dont il a fait preuve dans la Dépêche, mais aussi dans la Petite République. Par exemple, l'affaire Dreyfus, c'est dans la Petite République, surtout, qu'il traite. Hein, parce que la Dépêche, elle, est plutôt anti-Dreyfusarde. Les radicaux étaient anti-Dreyfusard. Donc, et là, c'est dans la Petite République qu'il va écrire les articles les plus importants, disons, sur l'affaire Dreyfus. Donc, il tire les fruits, il tire les leçons de toute cette expérience journalistique, sauf qu'avec l'Humanité, je ne dirais pas qu'il fait ce qu'il veut, de façon arbitraire, mais là, il peut faire
c'est
le quotidien.
Son journal, enfin,
c'est son journal, avec une équipe. Et les deux caractéristiques de ce journal, il le dit très bien dans le premier éditorial, qui s'appelle « Notre but », bon, c'est... disons, toute cette expérience sociale avec le monde ouvrier qu'on va retrouver, il dit, nous accueillerons toutes les communications ouvrières. C'est un des buts très affirmés du journal. Bon. Et par ailleurs, il va le créer aussi, disons, avec des intellectuels. Un jour, je me souviens, Régis Debray demandait à Madeleine Robériou, mais comment vous expliquez que ce journal ouvrier ait été créé par des intellectuels ? Alors, bon, il y a très bien répondu en montrant les conditions de l'époque, mais il le crée avec Blum, R, qui sont quoi ? Des normaliens, c'est Normal Sup. Avec Octave Mirbeau, avec Tristan Bernard, avec Jules Renard.
Mais, oui, mais l'UMA de cette époque-là est élu par les ouvriers ?
Ah
non.
Oui, oui.
Ah oui, d'accord. C'est un journal populaire ?
Enfin, populaire, je pense qu'il y avait... Ben, c'était très politique en même temps. C'était les ouvriers socialistes, je pense, lisaient l'Humanité. Voilà. C'était une option, parce que c'était quand même un journal très clairement positionné. C'était le journal, je crois que ça s'appelait exactement « Quotidien socialiste ». Hein, voilà. Donc, je crois qu'ils le lisaient à cause de ces options, et puis parce qu'ils y trouvaient un écho aussi au syndicalisme. Il y avait une place donnée, qui va d'ailleurs se renforcer constamment. Quand il va y avoir des crises, il y en aura, surtout en 1906, l'Humanité a failli disparaître à plusieurs reprises. Eh bien, Jaurès, lui, il tend la main au Parti socialiste, mais il ne lui donne pas le gouvernail, hein, jamais.
Mais Charles, quel rapport entre le socialisme dont vous parlez, le socialisme de Jaurès, celui de la naissance de l'Humanité de 1904, cette crise de 1906 que vous amorcez, et le Parti socialiste d'aujourd'hui en France, celui de Ségolène Royal, de Martine Aubry et de DSK. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ?
Je pense quand même qu'il y a un rapport, c'est que le Parti socialiste, qui est un parti, je dirais, très marqué par l'opportunisme politique, il se gauchit quand il faut, il se droitise quand il gouverne, etc. Et quand même a encore des liens avec Jaurès, parce qu'il y a des bases, disons, ce que j'appelais tout à l'heure morales, ou qui se recommandent du travail. On l'a vu dernièrement dans les manifestations, quand même. Bon. Ce qui est vrai, c'est qu'il est indéniable, ça. Bon, c'est que Jaurès... est socialiste, mais pour lui, le mot socialisme et le mot communisme reviennent au même dans son esprit. Par exemple, il parle du communisme du travail. Mmh. C'est les coopératives, c'est tout ce qui fait que les travailleurs produisent ensemble. Bon. Et donc, là, à cet égard, évidemment, le Parti socialiste d'aujourd'hui, tel qu'on peut le connaître depuis quelques années, en tout cas, ou un peu plus longtemps, n'a pas grand-chose à voir avec ce Jaurès, comme moi, j'ai essayé d'en parler. Mmh. Bon, il y a une autre raison, mais ça, on remonte un petit peu plus loin, c'est que la guerre a été terrible. Parce que la guerre, comme on dit, ça a été la faillite de la fameuse deuxième internationale, la faillite des partis socialistes. Les partis socialistes ont plongé dans l'union sacrée de la guerre, partout, et particulièrement en France. Même Jules Guesde, ils y sont tous allés. Bon. Et là, il y a une rupture considérable avec Jaurès, parce que je viens de prendre connaissance d'un livre, ce sont les carnets secrets d'Abel Ferry, qui était le neveu de Jules Ferry, et Abel Ferry raconte que 3 heures avant la mort de l'assassinat de Jaurès, ils ont reçu, lui comme secrétaire d'État des Affaires étrangères, ils ont reçu Jaurès, qui venait les mettre en garde. Et Jaurès leur dit, vous êtes victime d'Ivolski et de la chancellerie russe. Et il ajoute, je vous dénoncerai ministre à la tête légère. C'est-à-dire qu'on peut sérieusement penser que Jaurès, au moment où la guerre allait éclater, allait condamner, disons, la guerre et la décision du gouvernement français de se lancer dans la guerre. Bon, après, est-ce qu'il aurait continué comme ça pendant 4 ans ? Personne ne peut le savoir. Mais je pense que là, il y a une scission, disons, entre Jaurès, qui était, je pense, on peut le qualifier comme ça, révolutionnaire, mais un révolutionnaire républicain, c'est très important. Jaurès dit toujours, il n'y a pas de socialisme sans la République et de République sans socialisme.
Alors, on va maintenant parler du Jaurès pacifiste. Ce Jaurès pacifiste qui va se faire assassiner le 31 juillet 1914 au Café du Croissant, rue Montmartre, et puis ce sera le leitmotiv de la belle chanson de Jacques Brel. Comment devient-il pacifiste et l'est-il vraiment pacifiste ?
Alors, je soutiens l'idée, moi, que Jaurès est plus que pacifiste. Parce que, au sens, disons, un peu ordinaire du terme, pacifiste, c'est quelqu'un qui ne veut pas de la guerre, qui a horreur de la guerre, tout sauf la guerre. Il y a même eu des pacifistes, on le sait, en 1940, qui n'étaient pas pour s'engager, même contre...
Pétain l'était à sa façon.
Pétain l'était à sa façon. Il disait aux gens, vous allez pouvoir être tranquille, restez chez vous, vous n'avez pas... Bon. Et donc, il a arrêté, lui, il a arrêté la guerre des Français contre l'Allemagne nazie. Hein. Donc, je pense que ce n'est pas ce pacifisme-là, Jaurès. C'est un pacifisme, moi, j'ai essayé de suggérer que c'est quelqu'un qui redoute la guerre parce qu'il a en tête l'évolution de la société. On l'appelait, dans la presse qui l'a accablé et qui a armé le bras de l'assassin, R. Jaurès. C'était un,
on l'a fublé. Ça veut dire au sens que c'est un Allemand.
Un Allemand. Oui, bon. Oui. Avec, on l'a fublé du casque à pointe. Bon. Pourquoi ? Mais parce que Jaurès a toujours combattu la stratégie qui se mettait en place de l'alliance franco-russe contre l'Allemagne. Et il a vu venir de très loin la guerre. Par exemple, en 1904, il y a la guerre russo-japonaise. Et Jaurès tout de suite stigmatise cette guerre. Pourquoi ? Parce que cette guerre, c'est la première guerre de tranchées. C'est la première guerre de baïonnettes. Il reçoit des télégrammes de Pétersbourg, dont il fait état dans ses écrits, Jaurès, où il explique comment là-bas, il y a des ruisseaux de sang dans les tranchées. C'est en 1904. L'humanité vient à peine d'être créée. Donc Jaurès, en fait, entrevoit la guerre de 14-18. Les baïonnettes, les tranchées, le sang qui coule, etc. Donc il sait que la guerre européenne va être la guerre russo-japonaise multipliée par 10. Et c'est ce que je dis de Jaurès, là, à un moment donné, c'est un voyant. Alors, ce n'est pas un devin. J'appelle ça, j'ai intitulé ce chapitre, un voyant raisonneur. Il y a un article extraordinaire de 1912 qui s'appelle « Sinistre leçon », dans lequel ils disent « Si Chauvin de France et Chauvin d'Allemagne jeter les deux nations l'une contre l'autre, des violences sauvages souilleraient pour des générations entières le regard et la mémoire des hommes. »
C'est ce qui s'est passé.
C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, mais surtout, il entrevoit au travers de ça, la mémoire et le regard des hommes souillés, c'est quoi ? C'est l'après 14-18. C'est ce qui va se passer avec le traité de Versailles, c'est la montée de l'hitlérisme. C'est-à-dire que ce que Marc Ferraud parfaitement montré, à un moment donné, ça a été la matrice de la violence du XXe siècle.
Bien sûr. Son côté visionnaire que vous soulignez et son courage ont été grands. Parce que dès la fin du XIXe siècle, on prépare cette guerre. Et il y a des propagandes absolument monstrueuses qui gagnent tous les moindres recoins de la société, des cœurs, de la propagande, de tout le monde. Donc, y échapper, y résister, c'est un courage et c'est le risque d'une marginalisation. Est-ce qu'il était seul sur cette ligne-là ?
Ben, il n'a pas été vraiment seul parce que le Parti socialiste, pendant toute une période jusqu'à juillet 14, et les socialistes allemands aussi, hein, Liebknecht, tout ça, ont été contre les projets de guerre. Mais, comment dire, c'est un mouvement qui était relativement isolé parce qu'il y avait la question du patriotisme qui a été absolument terrible. Dans le livre, j'ai essayé de montrer, bon, c'est un peu vite dit, mais après tout, il n'y avait pas de raison de tourner autour du pot. Il y a le différend terrible avec Peggy. Péguy dire un jour, le premier à fusiller si la guerre éclate, ce sera Jaurès, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un revolver dans notre dos. Or, Péguy, c'est un ami de Jaurès, c'est un socialiste, un admirateur de la Révolution française, très grand écrivain, très grand esprit. Et je dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'un Péguy en arrive à dire ça de Jaurès? Eh bien, c'est que c'était l'exaltation nationale, nationaliste. Vous savez, Péguy, il y a une chose incroyable, c'est qu'il dit aux soldats, vous allez aller vous battre comme vos ancêtres se sont battus à Valmy. À Valmy, c'est-à-dire, il crée une espèce de figure pour 1914 qui renvoie à celle de la Révolution française, des sans-culottes, de Valmy. Et donc, je dis que, par exemple, il confond Robespierre et Clémenceau, quoi. Il confond les époques, voilà. Mais, bon, ça, c'est le problème de Péguy. Mais plus profondément, je pense qu'elle est jeune, la République, à l'époque. Elle est très jeune.
Oui, oui.
On sort de l'Empire, en 1870, avec la Commune. Bon, et donc, le patriotisme, l'esprit français, dont une autre marque va être, quoi, le colonialisme. Parce qu'on n'en a pas parlé, l'évolution de Jaurès sur le colonialisme est absolument capitale. Jaurès est pour une politique coloniale.
Comme Ferry.
Il approuve l'expédition au Tonkin. Il dit même que si on avait fait un peu plus confiance à certains militaires, les choses se seraient mieux passées et ils auraient été applaudis par les Français. Bon. Oui. Sur le Maroc, il dit, attention, il y a une expédition au Maroc, mais il dit, il faudra que la conquête reste pacifique. Donc, il a l'illusion que la conquête coloniale puisse être pacifique, parce qu'il a cette illusion de la civilisation qui est exportée dans ces pays, disons, qui ont besoin d'être civilisés. Bon, c'est le début de Jaurès, ça. C'est, bon. Mais il n'est pas le seul, ils sont à peu près tous comme ça. Et ce qui se passe, c'est que, j'y reviens encore une fois, c'est que là, le journaliste fait le travail de l'enquête, de l'analyse et de l'investigation des faits eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il s'aperçoit? C'est qu'au Maroc, à un moment donné, il y a des rebelles qui se dressent contre les militaires français, ils tuent des soldats français, et qu'est-ce que font les soldats français? Ils vont dans les douars, et ils vont massacrer aussi de la population civile. Quand j'ai lu ça, dans la dépêche, si vous voulez, j'ai été absolument frappé, parce que je croyais revivre des choses de la guerre d'Algérie. C'était le fameux engrenage de la cruauté. Parce qu'on occupe un terrain, il y a des rebelles et tout. Et là, Jaurès tout de suite dit, il va falloir trouver des solutions pour laisser à ce peuple. Il y a Moulay Hafi, qui est un leader marocain. Il dit, ben voilà, il y en a un là qui a la confiance de son peuple, qui peut être souverain. Et il emploie le mot déjà, pas de façon moderne, mais à la façon de l'époque, le mot d'indépendance, de souveraineté. C'est-à-dire lui qui a été, disons, pour une politique coloniale, à un moment donné, il se retourne et il devient, alors là, terrible contre cette politique coloniale telle qu'elle se déroule. Voilà. Et c'est si vrai que d'ailleurs, je pense que ça a eu beaucoup d'implications, cette affaire du Maroc et tout, parce que c'était aussi, je dirais, dans la musette de ce qui va se passer en 14-18 avec le traité de Versailles. Jaurès dit à un moment donné, il écrit, il dit, Delcassé, le ministre des Affaires étrangères français, dit en quelque sorte à l'Empire d'Autriche-Hongrie, il a dit, nous vous laissons la Bosnie, et c'est là que va éclater la guerre. Laissez-nous le Maroc. C'est le troc. C'est le troc du traité de Versailles.
Qu'est-ce qu'il faisait, Jaurès, comme métier?
Eh bien, c'était un journaliste, et puis il était député.
Raymond Delau.
C'était l'ami des ouvriers.
Témoin de l'assassinat de Jean Jaurès.
Il était contre la justice.
1972.
Il a tout fait pour empêcher la guerre de 14. Il est allé en Allemagne, et quand il est revenu, le 31 juillet, il venait d'avoir un entretien avec les Allemands, les socialistes allemands. Ils n'ont pas accepté ce qu'ils proposaient. Ils venaient de tenir une réunion avec tous les collaborateurs de l'humanité. Il leur a dit, il n'y a rien à faire, la guerre, c'est la guerre imminente. Il a été tué tout de suite après.
Qui est-ce qui l'a tué?
C'est Vilain. Vilain. J'ai servi Vilain. C'est-à-dire, je vois un homme rentrer dans le café, il s'assoit à droite de la porte et il me demande un demi. Alors je lui apporte un demi de bière et il me demande, c'est Jaurès qui est là? Je dis, oui, c'est Jaurès. Et puis, tout d'un coup, Jaurès m'appelle. Il me dit, Raymond, donne-moi une pêche au kirsch. Je prends ma pêche et au moment où je lui porte, quoi, j'étais peut-être à 2 mètres de lui, je vois le rideau s'écarter et une main avec un revolver sur la tempe de Jaurès. Et j'ai entendu 2 coups de feu. Moi, j'ai eu peur. Hein. Et tout le monde a eu peur, et puisque les tables sont retournées dans le café partout, on croyait que c'était une bombe. On l'a étendu sur une table à côté, et puis on a essayé de le ranimer, mais il n'y avait rien à faire, il était mort. Alors tout le monde l'a salué, ils l'ont embrassé. Et puis après, il est arrivé là, un capitaine, il est venu le saluer, puis ils l'ont embrassé. Et quand on a sorti le corps de Jaurès, ce capitaine s'est mis à la porte, puis il a crié « Saluez !» Alors tout le monde a crié « Vive Jaurès !» Ah, c'était, il était étonné. Hein.
Charles Sylvestre, le dernier article de Jaurès, son dernier papier.
Alors, je me suis intéressé toujours au côté double, c'est-à-dire la dépêche et l'humanité. Parce que le dernier article de la dépêche, il est du 30 juillet. Il est assez alarmé, il est très inquiet. Curieusement, le dernier article de l'humanité, c'est celui du 31 juillet, a encore certains relents d'espoir, de confiance, que la guerre n'éclatera pas, que le gouvernement français fera ce qu'il faut, etc. Alors, est-ce qu'il a été là relativement naïf, crédule ? Je ne pense pas, c'est que je crois que c'est un homme. Moi, je dis que c'était un homme bon, foncièrement bon, et qu'il était tellement épouvanté par cette guerre qui se profilait, dont il avait vu ce qu'elle allait être, à un moment donné, qu'il ne pouvait pas, disons, se résoudre, à un moment donné, à penser que la guerre allait éclater le lendemain ou le surlendemain, ce qui a été le cas. Donc, jusqu'au bout, il croit qu'elle va pouvoir être évitée. Ça, c'est le côté, disons, idéaliste de Jaurès. Hein. Chez Jaurès, c'est une notion extrêmement importante. C'est un homme qui emploie le mot idéal tout le temps.
Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pour répondre, Charles, à la question de Jacques Brel, pourquoi ont-ils tué Jaurès? C'est quoi votre réponse à cette question-là?
Ah, je pense qu'ils ont tué Jaurès parce que c'était un empêcheur de partir à la guerre, fraîche et joyeuse, la fleur au fusil, etc. Il y avait l'Alsace-Lorraine qui était encore en dispute, puisque la guerre de 70 qui avait été perdue par la France à Sedan, l'Allemagne avait récupéré l'Alsace-Lorraine, donc il y avait une haine profonde entre les deux pays et qu'il fallait aller régler leurs comptes aux Allemands. Hein. Et donc là, Jaurès, lui, se dressait contre ça. Il fallait, c'est pour ça que j'ai cité Péguy, etc. Mais Péguy, bon, c'est un grand intellectuel, mais dans le peuple, si vous voulez. On suivait Jaurès pour le socialisme, on le suivait pour sa défense des ouvriers, on le suivait pour une chose dont on n'a pas parlé, c'est la question laïque qui est capitale chez Jaurès.
Ah, bon. Bien sûr, c'est une guerre
essentielle. Mais à un moment donné, c'est une chose que je n'oublierai jamais. C'est que l'effervescence patriotique ou patriotarde, à un moment donné, peut tout ensevelir, toutes les différences, la gauche et la droite, les patrons, les ouvriers, etc. Alors là, tout est enseveli là-dessous, et donc Jaurès, lui, n'a pas accepté ça, et à un moment donné, il a été celui qu'il fallait éliminer de la scène. Voilà. La comtesse de Noailles, dans un poème magnifique, dit « Jaurès tué en avant des armées ». En avant des armées. Une fois Jaurès tué, on pouvait aller jusqu'à Verdun, au chemin des Dames, jusqu'aux tranchées, jusqu'à la baïonnette.
En somme, Jaurès est récupérable si on le prend à l'arrêt. si on le prend par moment, si on le prend par fragment. Mais si on le prend pour ce qu'il fut, c'est-à-dire un homme en mouvement, une pensée en mouvement, un homme en marche et une pensée en marche avec un horizon, il est irrécupérable.
Oui.
Pour finir, je voudrais dire que ce bouquin est accompagné de dessins d'Ernest Pignon et Ernest, évidemment magnifique, des seins, des fusains, des craies et des mines de plomb absolument sublimes, et que en ces temps où, à juste titre, le métier de journaliste est critiqué, ça fait du bien de relire ou de lire ce bouquin, qui est un hommage, évidemment, faut le dire, hein, c'est quand même un hommage à Jaurès, qui prend le journalisme comme une matière première, qui prend le journalisme comme un moyen de lucidité et une matière à penser, et un métier qui peut fournir un grain à moudre. Charles Sylvestre, merci.
Eh bien, merci à vous.
Salut.
C'était un entretien de Daniel Mermet avec Charles Sylvestre. Charles Sylvestre, dont le livre « Jaurès, la passion du journaliste » a été publié aux éditions Le Temps des Cerises en août dernier. Et si vous avez envie de relire les mots de Jaurès lui-même, les éditions Privat ont réédité en 2009 l'intégrale de ses articles publiés dans la Dépêche de 1887 à 1914. Vous retrouverez bien évidemment toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique Émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Nicolas Lapeyre, réalisation Coyenne Guyenne et Franck Adhérère, assistante Agnès Lebotte, chef du répondeur Marina Twiliez. Marina qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. France Inter, il est exactement 16h. Et le flash vous est présenté par Corinne Audouin.
Du nouveau dans l'affaire de l'accusation d'espionnage des journalistes par les services de renseignement, Bernard Squarcini, le patron de la DCRI, a déposé une plainte pour diffamation contre le Canard enchaîné qu'il accuse de piloter ses opérations. À l'Assemblée, lors des questions au gouvernement, François Fillon a assuré que les interceptions de sécurité, notamment la fourniture de factures téléphoniques détaillées, se font dans le strict respect des libertés publiques. Tout le reste, ce ne sont que des fantasmes, a dit le Premier ministre. Ce matin, France Info révélait que le directeur de cabinet de François Fillon avait envoyé une note au ministère de l'Intérieur pour rappeler qu'il est illégal de saisir les factures détaillées des journalistes. Bernard Accoyer entrave-t-il l'enquête sur l'attentat de Karachi ? Le président de l'Assemblée nationale refuse de transmettre au juge Trévidic le contenu des auditions menées par une mission parlementaire, et cela au nom de la séparation des pouvoirs. Les familles des victimes de l'attentat vont porter plainte contre Bernard Accoyer pour entrave à la justice. Selon lui, sa décision n'empêche pas le juge d'enquêter. Parmi les 62 personnes auditionnées figurent l'ex-premier ministre Édouard Balladur et plusieurs anciens ministres de la Défense. Pour l'avocat des familles des victimes, maître Olivier Maurice, Bernard Accoyer protège un certain nombre d'hommes politiques des investigations du juge. Après la promulgation express de la loi sur les retraites la nuit dernière, les syndicats ne désarment pas. La FSU réclame toujours son abrogation et appelle à la mobilisation le 23 novembre prochain. 500 syndicats organisent ce jour-là une journée d'action contre la réforme. Pour la CGT, la promulgation de la loi ne change rien à sa détermination à poursuivre la bataille, d'autant que les premières dispositions d'importance de la réforme ne s'appliqueront qu'à partir de juillet 2011 et qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Fin de citation. Michel Alliot-Marty ira témoigner au procès en appel du gang des barbares à Créteil. Selon un courrier du président de la cour d'assises du Val-de-Marne, la garde des Sceaux avait affirmé sur France Inter qu'elle était prête à venir témoigner, comme le demandent plusieurs avocats de la Défense, afin d'expliquer pourquoi elle avait demandé au parquet de faire appel du jugement de première instance. Selon eux, Michel Alliot-Marty a agi sous la pression des parties civiles qui estimaient le verdict trop clément pour les co-accusés de Youssouf Fofana. Avec une pelleteuse, un commando de 8 hommes cagoulés et fortement armés a attaqué ce matin un atelier de transformation et de stockage de métaux précieux près d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. La pelleteuse volée a permis aux braqueurs de faire tomber une partie du mur de l'entreprise. Ils ont ensuite brûlé l'engin pour faire disparaître toute trace. Le butin serait très important. Très énervés, les étudiants britanniques, au cours d'une manifestation contre le triplement de leurs frais d'entrée à l'université, ils ont cassé les vitres du siège du Parti conservateur à Londres. Londres. La manifestation rassemblait, selon la police, au moins 20 000 étudiants. Et puis Eric Abidal sera de retour en bleu pour la première fois depuis la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, a rendu sa liste des 22 pour le match amical France-Angleterre du 17 novembre. Eric Abidal jouera arrière-gauche, comme dans son club du Barça. En revanche, pas de Jérémy Toulalan, qui a pourtant purgé ses 3 matchs de suspension. Enfin, Alou Diarra, suspendu en L1 pour avoir bousculé un arbitre et sélectionné. Et pas de changement chez les gardiens et les attaquants.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Gwenaëlle Abolivier.
Ce mercredi, nous plongeons dans les archives sonores avec un explorateur des pôles qui n'a pas froid aux yeux.
Il s'agit en effet de la maison d'habitation que nous devons ériger au centre du Groenland et où hiverneront 6 de nos camarades.
Rendez-vous avec l'aventurier ethnologue Paul-Émile Victor.
J'aime bien mieux un traîneau et des chiens qu'un véhicule qui sent l'essence.
À partir de 21h.
France Inter. France Inter. La différence.
16h04 sur France Inter, lors de votre rendez-vous avec la musique classique et Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, comme tous les 3 ans, un festival, les Paris de la musique, ou bien Paris de la musique, ça concerne la capitale, donc un jeu de mots tout à fait intéressant. Festival se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 novembre au Châtelet, à Pleyel, puis au Bouffe du Nord. C'est une manifestation importante dans le paysage de la musique contemporaine, sous l'égide de Musique Nouvelle en Liberté, pour donner aussi leur chance à des musiques qui ne sont pas, dans un certain sens, dans les traditions les plus modernistes, mais qui sont quand même très, très passionnante. Donc, ça commence aujourd'hui au Châtelet avec une œuvre d'Arvo Pärt, Del Curry et puis Sibelius aussi, bien sûr, là qui n'est pas contemporain. Il y aura Patrick Messina, un magnifique clarinettiste, l'ensemble orchestral de Paris, dirigé par Olari Eltz. Et puis encore samedi, Salle Pleyel, l'orchestre Padlou fête ses 150 ans avec une œuvre d'une japonaise, Noriko Baba. Et puis là, on arrive au concert qui nous intéresse parce que je vais distribuer dans quelques instants des possibilités de place, mais ne pas appeler le numéro de France Inter, ce sera un autre samedi, donc le même samedi 13, Salle Pleyel à 20h, Berlioz, bien sûr, n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin de subvention, et puis Tabakov et Petit Girard, 2 œuvres contemporaines qui seront créées, et puis Prokofiev. Il y aura 2 solistes, Patrick Gallois, Philippe Bernold, des flûtistes magnifiques, l'Orchestre National de l'Île-de-France, dirigé par le compositeur Tabakov lui-même. Mais on va entendre une des pièces proposées ce samedi à 20h, Salle Pleyel, c'est la 2e suite de Roméo et Juliette de Sergei Prokofiev, danse vivo. Thank you. Danse tirée de Roméo et Juliette, ballet de Sergueï Prokofiev, la deuxième suite interprétée par l'Orchestre National d'Écosse, dirigé par Néeme Järvi. Cette deuxième suite, donc, au programme du concert de samedi qui vient, à 20h, salle Pleyel, dans le cadre de Paris de la musique, avec l'Orchestre National de l'Île-de-France, Hector Berlioz, le Roi Lyre, ouverture, Tabakov, concerto pour deux flûtes avec deux grands virtuoses, Bernold et Patrick Gallois, Laurent Petit-Girard, poème pour grand orchestre à cordes, et puis, bon voilà, un beau mélange de musique déjà très connue, et puis de musique à découvrir. Et nous vous proposons, avec l'Orchestre National de l'Île-de-France, et nous-mêmes France Inter, nous proposons 100 places en tout, c'est-à-dire 50 invitations pour deux personnes pour ce samedi à 20h, si vous êtes libre, si vous avez envie d'y aller. Donc le numéro de téléphone, c'est 01 43 68 76 00. Je répète, 01 43 68 76 00 pour aller salle Pleyel à Paris à 20h samedi prochain. Et il y aura une pièce de Laurent Petit-Girard, poème pour grand orchestre à cordes. Je vous propose d'entendre une œuvre, enfin une partie d'une légendaire concerto pour violon, chœur et orchestre de Laurent Petit-Girard. C'est un passage tout à fait envoûtant.